C'est un brin d'histoire. Je suis Christian Lacombe et j'aborde la richesse de notre patrimoine régional. Et j'appartiens à plusieurs associations d'histoire locale. Bonjour à tous. Pour notre 33e émission d'un brin d'histoire, nous parlerons d'Olympe de Gouges, féministe engagée dans son siècle. J'ai repris le titre d'un ouvrage de Jordi Labouisse consacré aux femmes d'Occitanie. Et je me suis appuyé sur l'ouvrage de Benoît Groult, Ainsi soit Olympe de Gouges, chez Grasset, 2013. Olympe de Gouges fut la première féministe engagée dans la Révolution française. Née en 1748 à Montauban, fille de Pierre Gouze, boucher à Montauban. En réalité, elle est la fille illégitime d'un homme de lettres, le marquis Lefranc de Pompignan, et sa mère s'appelle Anne Olympe Mouissé. Sa naissance est romanesque et pauvre, ne recevant aucune instruction. Ceci nous est relaté dans un roman autobiographique qu'elle publiera plus tard dans les mémoires de Madame de Valmont. Sa ressemblance avec Lefranc de Pompignan ne faisait aucun doute quant à son origine. Celui-ci, durant les premières années de la vie d'Olympe et jusqu'à l'âge de 6 ans, essaya de se rapprocher de cet enfant. Mais la mère s'opposa à cette proposition d'adoption. Olympe a d'ailleurs toujours idolâtré ce père, magistrat et écrivain. En fait, Lefranc de Pompignan connut une certaine célébrité en son temps. Il était dévot, rigide, défenseur des privilèges, tête de Turc de Voltaire. Ce ne fut qu'un médiocre écrivain. Olympe, mariée à 16 ans à Louis-Yves Aubry, officier de bouche à Montauban, un homme âgé sans fortune et qu'elle n'aimait point. Elle eut un fils et fut veuve à 17 ans. Elle eut ensuite une aventure avec Jacques Bertrand de Rosières, entrepreneur de transport militaire, qui l'amènera à Paris avec son fils. Elle refusera d'ailleurs de l'épouser. 150 ans avant Simone de Beauvoir, elle se réclame en faveur de l'inclinaison naturelle. Elle rejette le mariage. Le mariage, dit-elle, est le tombeau de la confiance et de l'amour. À ce moment-là, pour une jeune et jolie ambitieuse, il n'y avait d'autre alternative que le mariage ou la galanterie. Dès lors, elle refuse de se faire appeler veuve Aubry. Elle décide de se forger un autre nom. Elle change Gouze en Gouge. À ce moment-là, elle ne sait d'ailleurs ni lire ni écrire et à peine signer. Comme prénom, elle prendra celui de sa mère Olympe, estimant qu'il y avait là quelque chose de céleste. À Paris, elle apprend très vite ce qu'est l'exclusion. On dirait aujourd'hui la marginalité. Fille naturelle, non reconnue, illettrée, occitane de surcroît, intelligente, indomptable et imprudente. De quoi scandaliser l'opinion de son temps. Olympe de Gouges accumulait les handicaps. Un père qu'elle vénérait, mais qui s'employa à la décourager. Les femmes, disait-il, peuvent écrire, mais il leur est défendu de s'y livrer avec prétention pour le bonheur du monde. Handicap aussi avec son manque d'éducation. Écrivant avec difficulté, elle avait besoin de secrétaire pour transcrire ses idées. Elle appartenait d'ailleurs à une culture plutôt parlée. Sa langue était l'occitan. Le français étant sa seconde langue, apprise tardivement. Ses discours et textes montrent d'ailleurs une certaine naïveté. Enfin, son troisième handicap est d'avoir eu un combat passionné contre l'esclavage. Le droit au divorce, les engagements forcés auxquels on contraignait les jeunes filles, l'emprisonnement pour dette. Aussi, pour faire diffuser ses idées, elle présentera plusieurs œuvres théâtrales. L'homme généreux portait sur l'esclavage, 1785. Elle présentait aussi une pièce au comité de lecture de la Comédie-Française, mais anonymement. En 1785 aussi, la pièce « Zamor et Mirza ». Celle-ci est acceptée, mais les autorités la repoussent. C'est la première fois que le thème sur l'esclavage est proposé, mais les colons s'y opposent et une lettre de cachet se propose de l'expédier à la Bastille. Ne se décourageant pas, elle écrit d'autres pièces, « Lucinde et Cardenio », « Les amours de Chérubin ». Ceci, c'est une suite au mariage de Figaro de Beaumarchais, qui d'ailleurs irrita fortement Beaumarchais. Quand ces pièces étaient refusées, elle se ruinait à les faire publier. De même, elle faisait placarder des affiches sur les murs de Paris. Le sort semble pourtant lui sourire en 1789. La Comédie-Française décide de jouer Zamor et Mirza, qu'elle a rebaptisé « L'esclavage des nègres ». Elle accompagne les pièces de publication et ce texte d'avant-garde est dédié à lutter contre la puissance des clubs, des colons et le commerce infâme d'hommes. « La couleur de l'homme, dit-elle, est nuancée et c'est là la beauté de la nature. » Mais la polémique contre les amis des Noirs est terrible. Les brochures anonymes sont publiées et la représentation tourna à la bataille rangée. La Comédie-Française ne reprit pas la pièce. Au cours de l'année 1789, Olympe de Gouges publiera plus de 12 brochures traitant des questions les plus variées et inattendues. Elle évoquera là la propreté des rues, la surveillance des viandes, le célibat des prêtres, le statut des enfants abandonnés et des bâtards. Olympe plaide en faveur du divorce, qui ne sera légalisé que 2 ans plus tard, mais elle est toujours respectueuse et modérée. Pendant les premiers mois de la Révolution, elle inonde les députés, la cour et le public de ses pamphlets, brochures et pétitions, s'exposant à la réplique violente de la presse. L'année 1790 lui donnera quelque espoir. Les féministes britanniques publient leur premier article ainsi qu'en Allemagne, essai sur l'amélioration du sort des femmes. En France, Condorcet, seul féministe de la Révolution, écrit sur l'admission des femmes au droit de cité. Mais celui-ci dut battre en retraite face à la pression de ses opposants. Les montagnards le condamnèrent à mort. Il leur échappera en se suicidant. La peur du ridicule n'a jamais freiné Olympe de Gouges. Qu'en est-il resté dans l'histoire? Peu de choses. Sinon, le souvenir d'une phrase célèbre. Les femmes ont le droit de monter à l'échafaud. Elles doivent avoir également celui de monter à la tribune. La Révolution française, bien audacieuse, dans bien des domaines, comme dans celui de la religion par exemple, est restée rétrograde en ce qui concerne la femme et son rôle dans la nouvelle société. Les esprits les plus ouverts de France, Mirabeau, Talleyrand, Sieyès, donnaient à la femme une place négligeable. Sylvain Maréchal, par exemple, à l'Assemblée, proposa une loi leur interdisant d'apprendre à lire. La nature, dit-il, les ayant dotées en compensation d'une prodigieuse aptitude à parler. Jacques-Pierre Brissot, le Girondin, féru du droit d'égalité pour les Noirs, considérait que 2 ou 3 ans d'école maternelle suffisaient amplement à une petite fille. Bernardine de Saint-Pierre, Madame de Staël, Madame Roland, se gardèrent de formuler la moindre revendication en faveur du sexe féminin. Madame Roland étant pourtant la femme la plus influente de la Révolution. Personne ne soutint Olympe de Gouges. Dans ce contexte social, hostilité des hommes, absence de solidarité des femmes, Olympe publie la Déclaration des droits de la femme, ceci en 1791. Mais tout cela était propos à choquer tout le monde, peuple, législateurs, les femmes elles-mêmes. Il y eut peu d'écho. La Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne s'inspirait de celle des droits de l'homme de 1789. Celle-ci allait beaucoup plus loin. Révision du mariage en contrat social. Reconnaissance du droit du concubin. Secours aux filles mères. Droit de recherche de paternité. Octroi de pension alimentaire en cas de divorce. Reconnaissance par la société de la dignité des mères mariées ou non. Et aussi, souhait pour les enfants légitimes ou non, d'avoir un droit sur les biens hérités du père. Il faudra attendre 1975 pour que ce souhait s'inscrive dans la loi française. La lecture de la déclaration montre qu'Olympe de Gouges savait allier des formules à l'audace de la pensée. La déclaration des droits de la femme tomba dans l'indifférence générale. Seulement, en 1792, la législative, en dernière lecture, accorda l'égalité des droits civils aux femmes et légalisera le divorce. Quant aux droits politiques, ils furent immédiatement repoussés. Peu à peu, les attaques contre elle vont passer aux insultes. Olympe continue, sans prudence, à s'afficher. Mais le 10 août 1792, c'est la chute de la monarchie. La Révolution prend un tournant nouveau et la guillotine entre en action. Malgré l'hostilité des Girondins, en décembre 1792, s'ouvre le procès de Louis XVI. Olympe brave l'opinion en envoyant un manifeste contre la peine de mort. Ceci est lu à l'Assemblée et provoque un tonnerre de protestations. Le sang, dit-elle, même celui des coupables, versé avec cruauté et profusion, souille éternellement les révolutions. Ensuite, on l'insulte, on l'injurie, on demande sa tête pour 24 sols. Une semaine avant l'exécution de Louis XVI, on jouait au Théâtre de la République une pièce d'Olympe de Gouges, qui se nomme « L'entrée de Dumouriez à Bruxelles ». Cette pièce obtint quelques succès et articles favorables, mais aussi beaucoup de haine, car par malchance, Dumouriez, le héros, trahissait et les armées de la République étaient battues sur le Rhin. Suite à cela, Olympe écrit tous les jours dans les tribunes, placarde des affiches partout dans Paris, ce qui va lui attirer la colère des montagnards, qui veulent la corriger et veulent une fessée en public, ce qui était en pratique alors. Elle échappe à cette correction et avec son courage suicidaire, elle publie son testament politique. Je sais que ma mort est inévitable. Je lègue mon cœur à la patrie, ma probité aux hommes et mon âme aux femmes. Elle est arrêtée en juillet 1793, mise au secret par le comité de salut public dans un réduit gardé par deux gendarmes. On perquisitionne chez elle. Robespierre est décidé à la faire taire à jamais. Elle passe ainsi 3 mois à la prison de Saint-Germain-des-Prés et sera interrogée par Fouquier-Tinville. Elle choisit pour avocat Guillaume-Alexandre Tronson du Coudray, celui-même qui s'était proposé pour défendre Louis XVI. Il fait appel à ses amis, à l'opinion. En fait, personne n'ose lui venir en aide. Ses amis sont morts ou en fuite et son fils, engagé dans l'armée, la renie. Olympe est ensuite transférée à la pension Bellhomme, rue de Charonne, qui est une maison de santé où l'aubergiste accueille les royalistes mis sous surveillance. Là, elle aurait pu s'échapper, mais n'ayant pas de fortune, Bellhomme ne peut la garder. Le 28 octobre, la femme de Gouges est transférée dans l'antichambre de la mort, la conciergerie. Au cours de son procès, l'accusateur public retient contre elle un dossier composé d'écrits attentatoires à la souveraineté du peuple et au gouvernement, d'avoir distribué des ouvrages et cherché ainsi d'avilir les autorités. Robespierre m'a toujours paru un ambitieux, sans génie, sans âme. Son arrêt de mort était déjà signé. Marie Gouze, veuve Aubry, sera puni de mort. On lui laissa juste le temps d'écrire une dernière lettre à son fils. « Je meurs, mon fils, impuissante. On a violé toutes les lois pour la femme la plus vertueuse de son siècle. » Le 3 novembre, la charrette des condamnés l'amène vers la place de la Révolution, les bras liés derrière le dos. « Enfant de la patrie, vous vengerez ma mort !» Le XIXe siècle classa Olympe de Gouges parmi ces femmes qu'on appelait les enragées de la Révolution, sans souligner la moindre de ses idées sociales. Même Chateaubriand les décrivait comme des tricoteuses qui avaient toutes à la fois leurs chausses à la main et l'écume à la bouche. Seul, Michelet soulignera le rôle des femmes dans ce bouleversement social de la Révolution française. Nous nous devions de parler d'Olympe de Gouges, femme libre d'Occitanie, et aujourd'hui enfin reconnue. Retrouvons-nous très vite, si vous le voulez, pour un autre brin d'histoire sur Radio Galaxie 98.5.